De Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. L'hôpital face au mur de l'été, la mission flash annoncée hier par Emmanuel Macron réglera-t-elle les problèmes des urgences? Les urgentistes en doute, obligés de faire appel à des intérimaires, payer des fortunes. Enquête sur ces médecins mercenaires dans un instant. L'inflation en hausse de plus de 5%, la croissance et la consommation qui baissent, c'est l'autre urgence du moment, le pouvoir d'achat. Dossier en partie entre les mains de votre invité Nicolas.
Oui, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances à notre micro avec Léa vers 8h22 avec toutes vos questions amis auditeurs au 01 45 24 7000.
Des sénateurs à convaincre après la déroute du Stade de France samedi soir, le ministre de l'Intérieur et la ministre des Sports convoqués pour s'expliquer aujourd'hui. Dans ce journal aussi, la libération à Shanghai après 2 mois de confinement drastique, l'immense victoire de Rafael Nadal face à Djokovic cette nuit à Roland-Garros. Il a encore une fois déjoué les pronostics pour se hisser en demi-finale. Et puis Mac 10 au cinéma, Top Gun ou le meilleur démarrage de l'année en salle quand la nostalgie passe le mur du son.
France Inter.
On pensait que tout avait été dit sur l'hôpital, surtout après 2 ans de Covid, le cercle vicieux du manque de personnel, des conditions de travail et des burn-out. Pourtant, c'est une nouvelle mission qui a été annoncée hier par Emmanuel Macron. 1 mois pour diagnostiquer les problèmes des services d'urgence en surchauffe à l'approche de l'été, avant une grande conférence sur la santé à partir de juillet. Pas de quoi rassurer les urgentistes comme Mathias Vargon, chef de service de l'hôpital de La Fontaine de Saint-Denis.
La remise de rapport, mais il y en a tous les 2, 3, 4 ans. La question, c'est à un moment, qu'est-ce qu'on fait pour réformer au fond le système de santé et pas se contenter d'un rapport qui va répéter la même chose que ce qu'on a dit la dernière fois. De toute façon, c'est déjà trop tard. Quand on est dans le mur, c'est trop tard. Donc, il va falloir limiter les dégâts pour cet été. Nous, on a un problème qui risque d'être un problème infirmier. Pour l'instant, ça tient. Je suis pas du tout sûr qu'en juillet-août, on n'aura pas un problème d'infirmier, parce que la moitié de mon personnel, c'est des intérimaires. Et donc, si les intérimaires décident de pas venir, parce qu'ils ont le droit de pas venir, parce qu'ils ont le droit de choisir des services moins durs que les urgences, c'est d'ailleurs la difficulté qu'on a, c'est que les gens choisissent des services moins durs que les urgences, eh ben, on n'aura plus d'intérimaires, on pourra pas tenir le service et on sera obligé soit de filtrer, soit de fermer, j'en sais rien.
Mathias Vargon, chef des urgences de l'hôpital de La Fontaine de Saint-Denis, au micro de Mathilde Munoz. Son hôpital, comme les autres, tourne donc avec des intérimaires, que certains appellent les mercenaires de la santé. C'est le mot qu'a prononcé Martin Hirsch, le patron des hôpitaux franciliens, ici même avant-hier. Bonjour Victor Dolande.
Bonjour.
Vous avez enquêté sur ces médecins intérimaires demandés partout et payés des sommes astronomiques.
La denrée rare en ce moment, ce sont les médecins urgentistes. En banlieue parisienne, dans certains hôpitaux privés, on leur propose des gardes de 24 heures, payées 2000 euros net. En Gironde, même tarif, mais l'établissement ajoute les frais de déplacement et d'hébergement. À Nancy, pour la même vacation, un médecin sera payé 2500 euros net. Dans un hôpital de Cahors, une agence d'intérim propose jusqu'à, tenez-vous bien, 3000 euros la journée de 24 heures pour un anesthésiste. À ce prix-là, les jeunes médecins sortis d'école ne se posent plus trop de questions, me confie un urgentiste d'un hôpital public de Bretagne. Ils travaillent 3 ou 4 jours par mois, ajoute-t-il, et ils sont maîtres de leur planning. Et comme il manque des médecins intérimaires sur tout le territoire, ils n'ont aucun mal à faire monter les enchères.
Il n'y a donc pas de cadre légal, Victor, pour encadrer l'intérim dans les hôpitaux ?
Si, un décret de 2017 fixe un tarif réglementé, 1170 euros la garde de 24 heures. Mais dans les faits, ce montant n'est plus jamais respecté. Pour Frédéric Adnet, chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne à Bobigny, il faut agir vite.
Ce qu'il faudrait absolument, c'est qu'il y ait une régulation de ces intérimaires avec l'arrêt de ces salaires mirobolants, mais aussi revaloriser les gardes hospitalières. L'indemnité de garde de 250 euros n'a pas été revalorisée depuis plus de 20 ans. 250 euros, c'est 20 euros de l'heure. Il ne faut pas exagérer. Pour quelqu'un qui a fait 10 ans d'études, qui est en charge d'une cinquantaine, voire d'une centaine de patients par jour, c'est quand même quelque chose de parfaitement insuffisant.
Revaloriser les salaires ne suffira pas pour retenir le personnel à l'hôpital public. Les soignants réclament aussi des meilleures conditions de travail, par exemple de ne plus être muté d'un service à l'autre dans la même semaine et de ne pas alterner entre travail de jour et de nuit en permanence.
Victor Dolande et 9 syndicats appellent les soignants à une grève nationale mardi prochain.
Il est 8h05 sur le gris. avril face aux sénateurs.
Convoqué devant la commission des lois et la commission culture du Sénat à 17h, Gérald Darmanin et la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, devront répondre et convaincre les sénateurs du bien fondé de leurs arguments pour expliquer le fiasco de la finale de Ligue des Champions samedi soir au Stade de France. Autant dire, Élodie Forêt, que ça ne sera pas une partie de plaisir.
Dès dimanche, Bruno Retailleau, patron des sénateurs LR, donne le ton. La version du gouvernement est en décalage avec les faits, écrit-il sur Twitter, appelant le Sénat à participer à la manifestation de la vérité. Trois jours après, les ministres des Sports et de l'Intérieur sont donc convoqués. François-Noël Buffet, président de la Commission des lois.
Il n'y a pas de victime, tant mieux, mais ce n'est pas exonératoire. On ne va pas au stade de football pour être gazé, pour être battu, pour être pillé. Enfin, il y a quand même réellement un dysfonctionnement.
Et sera particulièrement passé sur le grill Gérald Darmanin, qui lundi a évoqué la présence de 30 à 40 000 faux billets. On lui demandera des preuves, promet un sénateur. Un marcheur soupire à quelques jours des législatives, c'est une bonne occasion de critiquer le gouvernement. Une accusation en opportunisme politique balayée par le centriste Laurent Lafon, président de la commission culture.
On est dans notre rôle, c'est normal que le gouvernement vienne s'exprimer devant la représentation nationale. Il y a eu dysfonctionnement évident, donc il est normal que nous interrogions le gouvernement et que nous essayions d'avoir des explications plus précises que ce qui a pu être dit jusqu'à présent.
Le Sénat qui ne ferme pas la porte à d'autres auditions, plusieurs LR réclament même une commission d'enquête, infaisable a priori puisque la justice s'est aussi saisie de l'affaire.
Et hier, pour des vols commis sur des supporters aux abords du stade, trois hommes étrangers en situation irrégulière ont été jugés en comparution immédiate, l'un d'eux condamné à 10 mois de prison ferme.
En Chine, Florence, c'est jour de libération à Shanghai.
Après deux mois de confinement kafkaïen, la quasi-totalité des 26 millions d'habitants de la ville ont pu remettre le nez dehors. Certains quartiers restent confinés, mais bonjour Sébastien Berriot.
Oui, bonjour.
La vie quotidienne a donc repris ce matin, les employés ont pu sortir pour aller travailler.
Effectivement, c'est le cas de cet employé qui travaille dans une société de véhicules de location. Après deux mois enfermé dans son appartement, c'était la délivrance. Ce matin, la Shanghaïenne est arrivée à son bureau un petit peu après 9h pour ce jour si particulier.
Aujourd'hui, je me suis vraiment faite belle pour ce jour. Parce que depuis longtemps, avec le confinement, je ne mettais plus de maquillage et je ne m'habillais pas bien.
Premier pas à l'extérieur aussi pour Monsieur Zhang, sur les grands boulevards de Poussy, la vieille ville, qui ont retrouvé le bruit des voitures, la pollution des pots d'échappement et même les embouteillages.
Devant l'entrée principale de notre résidence, c'est le boulevard. Je vois des bus, des gens prennent leurs scooters, d'autres leurs voitures. La file de voitures, d'ailleurs, devant les feux de signalisation, fait plusieurs mètres de long. Le métro n'est pas bondé, mais il n'y a aucun siège vide.
La plupart des commerces sont rouverts avec une capacité limitée à 75% et plus de 2,5 millions d'entreprises, petites et grandes, ont repris leur activité. Critiquées pour ce confinement très long, les autorités se félicitent de l'évolution. Insin est porte-parole du gouvernement de Shanghai.
C'est un jour dont nous rêvions depuis très longtemps. Tout le monde a fait de gros sacrifices. Ce jour a été durement gagné et nous devons le chérir et le protéger.
Protéger ce jour car il y a toujours des cas à Shanghai, une petite partie de la ville, 200 000 habitants sur 26 millions, restent encore confinés.
Sébastien Berriot, correspondant de France Inter en Chine. En Ukraine, est-ce une catastrophe chimique? Une frappe russe a touché un réservoir d'acide nitrique dans une usine de Severodonetsk. Le gouverneur de la région appelle les habitants à ne pas sortir des abris. Un nuage de fumée s'échappe de l'usine dans cette ville quasiment entièrement sous contrôle russe depuis hier, pilonnée et conquise, comme le fut Mariupol avant elle. On se souvient de ces civils coincés pendant des semaines dans les décombres, sans eau ni électricité. Il fallait fuir, mais comment ? L'homme que vous allez entendre a réussi à en sortir à la nage. Il a raconté son évasion à Thibault Lefebvre.
C'était le 16 mars, vers 19h sur la plage de Petchanka. C'est à moins de 10 km au sud de Mariupol. La nuit tombe, Dmitri enfile une combinaison de plongée. Il attache à son corps des bouteilles en plastique pour mieux flotter et il se jette à l'eau.
J'ai nagé environ 800 mètres et j'étais épuisé. J'avais peur d'être repéré et j'avais froid. Je claquais des dents. Si jamais les Russes me voyaient, je devenais alors une cible et ils allaient me tirer dessus. Je suis sorti de l'eau à Melekine, 4 km plus loin. Une mamie et un papy m'ont recueilli. Ils m'ont offert un borsch et un verre d'alcool. Ce sont eux qui m'ont aidé ensuite à organiser mon départ en minibus.
Quelques heures plus tôt, le théâtre de Mariupol est bombardé. Des centaines de civils meurent. Dmitri qui habitait juste à côté, a aidé à évacuer des blessés. Une scène d'horreur qui a motivé son départ soudain.
C'était la panique, un moment de chaos. Il y avait des cris, des appels à l'aide, des pleurs. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de partir.
Dmitri est aujourd'hui réfugié à Lviv, à l'ouest de l'Ukraine. Il imagine revenir dès qu'il le pourra à Mariupol. Mais cette fois, dit-il, avec un rire nerveux, ce ne sera pas à la nage, mais plutôt en bateau.
Voilà, Thibault Lefebvre, envoyé spécial de France Inter en Ukraine. La guerre et les confinements chinois qui plombent l'économie européenne. Plus de 5% d'inflation en France. La croissance en baisse, la consommation aussi. Les ventes de voitures neuves ont de nouveau chuté de 10% au mois de mai. 12e mois de baisse consécutif. L'Europe va-t-elle prolonger l'autorisation du glyphosate au-delà de la fin de l'année? À l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques, pour elle y inciter? Pour elle, ce pesticide n'est pas cancérogène, contrairement à ce que répète depuis des années le Centre international de recherche sur le cancer. 1h15 cette nuit, sous les spots du court central de Roland-Garros, Nadal remporte la balle de match et expédie le numéro 1 mondial Novak Djokovic.
Accélération de Novak Djokovic, un Novak Djokovic qui joue court, et c'est fait ! C'est fait sur un revers longue ligne de Raphaël Nadal !
Voilà, immense Raphaël Nadal qui se qualifie pour les demi-finales, malgré ce jeu de nuit qu'il n'aime pas, malgré ses blessures, malgré ses heures de jeu au tour précédent, victoire en 4-7 devant un public qui leur a porté toute la soirée, Fabrice Abgral, et malgré tous ses handicaps sur le papier.
Nadal rime avec phénoménal et Raphaël l'a encore été. Bluffant de pugnacité et de détermination, impressionnant de courage et de combativité. L'Espagnol s'est imposé en patron, autoritaire et implacable. Certes, il a été malmené et bousculé par Novak Djokovic, mais l'Espagnol n'a rien lâché et il a déjoué tous les pronostics. Car c'est en outsider qu'il s'est présenté sur le central. Personne ne le voyait gagner ce match, personne sauf lui. Parce que c'est dans l'adversité que Nadal se sent fort, très fort et même parfois le plus fort, et d'autant plus intouchable que durant 4h et 12 minutes, il s'est senti porté par le public entièrement acquis à sa cause.
Le public a été incroyable depuis le début du tournoi d'ailleurs. Je ne sais pas quoi dire en fait. Je crois qu'ils savent ici que je ne vais pas être là encore pendant très longtemps. Donc le fait de jouer ici, l'endroit le plus important et si particulier pour moi dans ma carrière, et de sentir un tel soutien du public, c'est difficile à décrire.
À bientôt 36 ans, Raphaël Nadal est toujours là, toujours maître en son royaume. Avec lui à Roland-Garros, tout est possible, même les rêves les plus fous, et notamment celui de le voir gagner un 14e titre.
Eh bien voilà, Fabrice Abgral, oui, qui a suivi cette soirée et commenté cette balle de match nuitamment. Raphaël Nadal retrouvera donc Alexander Zverev en demi-finale. L'Allemand a sorti le jeune Alcaraz plus tôt dans la soirée hier. 10 auteurs et leurs 10 livres, c'est le Livre Inter, prix décerné dimanche et annoncé ici même lundi matin. Tous les jours, vous le savez, on vous fait entendre un des auteurs sélectionnés ce matin, Tanguy Viel, pour La fille qu'on appelle, un livre qui résonne avec le mouvement MeToo.
C'est l'histoire d'une jeune fille de 20 ans qui va se retrouver prise au piège de ce que le mot commun définit comme consentement, abus de pouvoir, relation truquée avec un homme politique. Mais je dirais que pour moi, ce livre, c'est comme si j'avais voulu résoudre, ou en tout cas interroger, une énigme qui est: qu'est-ce que c'est qu'une manipulation quasi psychique entre deux ordres de pouvoir tout à fait différents, c'est-à-dire un homme politique et une jeune fille, et essayer de déployer ce qu'est cette question de céder sans consentir. Voilà, cette chose qui habite les médias depuis quelques années autour du récit féminin, de la violence sexuelle, de la douleur, etc. J'ai tout fait aussi pour échapper à la trivialité du fait divers.
Est-ce que ça donne pas aussi de la dignité ?
Je crois que j'ai essayé ça, c'est d'avoir un narrateur qui soit juste derrière l'épaule de ce personnage et que le lecteur puisse arpenter la trajectoire de ce personnage. Ça, peut-être que ça relève de la dignité.
Voilà, Tanguy Viel, La fille qu'on appelle, avec La fille du Livre Inter, j'ai nommé Eva Bétan. Enfin, voici le film qui redonne de l'espoir aux salles de cinéma, celui pour lequel on se presse en famille depuis mercredi dernier, Top Gun Maverick, ou le meilleur démarrage de l'année, 1 300 000 entrées les 5 premiers jours, un succès en forme de Madeleine de Proust pour les spectateurs qui ont grandi avec Tom Cruise, ceux qui sont tombés amoureux de lui il y a 36 ans. Évidemment, pour les autres, parfois c'est plus compliqué, Mathilde. De Amy.
Charlotte le reconnaît, son fils Oscar, 10 ans, lui aurait presque servi d'alibi.
Oui, c'est ça, faut pas lui dire. J'ai motivé avec les pop-corn et t'as bien aimé quand même.
Oui.
Oscar n'a pas l'air très convaincu.
Très bien.
Sa mère a pourtant tout fait pour lui expliquer sa passion.
Pour me rappeler mes souvenirs d'enfance, la belle époque. Et on a regardé la bande-annonce tous les deux. Et puis il m'a dit si, ça a l'air pas mal. Et puis en plus j'ai pris avec les fauteuils qui bougent, donc ça l'a encore plus motivé.
Mais elle ne lui a pas encore montré le premier Top Gun, par peur d'être traitée de ringarde.
Eux, en deux minutes, ils peuvent regarder un film, le télécharger. Voilà, eux, ils trouvent ça sympa, bon, ça bouge. Ils n'ont pas le même choc émotionnel où nous, on a un peu, genre, limite, les larmes aux yeux. Là, quand on a remis la musique de l'époque, ça nous rappelle plein de souvenirs.
Et c'est par la musique que Maxime espère lui aussi transmettre son amour du film à ses deux bébés.
Je leur fais écouter les musiques, ouais. Bon, ils dansent. Je vais attendre un petit peu et quand ils seront plus grands, effectivement, je leur ferai voir le film à la télé. Je leur montrerai le premier, qu'ils vont trouver extrêmement vieillot. Je serai content de leur montrer ce qui m'a fait moi rêver quand j'étais petit à leur âge.
Camélia et Lou, 20 ans, n'ont pas eu de parents fans du pilote d'avion. Et quand elles apprennent qu'il existe un premier Top Gun...
On savait même pas qu'il y avait un premier, honnêtement.
Genre, c'est pas le premier ?
Il y en a un.
Mais avec Tom Cruise ?
Tom Cruise, mais 36 ans plus jeune.
Quant à moi, c'est dans un avion supersonique que je vais quitter ce studio, Nicolas.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules thermiques, électriques ou hybrides, les experts Euromaster veillent chaque jour sur la sécurité des conducteurs.
Le soleil, Marie-Pierre, oui, s'impose sur les trois quarts du pays dès ce matin.
Oui, le soleil brille, parfois voilé, mais qui n'enlève pas la luminosité. On a aussi quelques brouillards encore dans les Côtes d'Armor et des brumes près de la Manche et des entrées maritimes poussées par un petit vent d'autant qui se rapproche des Côtes de l'Aude et du Roussillon. En revanche, sur le sud-ouest, le ciel est bien nuageux, donnant des averses orageuses de la Gironde à la Vendée au Massif central et même encore des orages. Et depuis le lever du jour, les températures sont encore contrastées. Il fait 3 dans l'Oise mais 11 à Paris, 19 sur l'île de Levant, pas plus de 7 à Lille et dans le Val-de-Saône et déjà 15 à Bordeaux et Perpignan.
Et les orages plus nombreux cet après-midi.
Oui, en glissant vers l'est, Nicolas, de l'Auvergne aux Alpes, au Jura, les orages seront plus forts, surtout entre Clermont-Ferrand et Saint-Etienne. Et ce soir, une nouvelle salve orageuse sera plus forte et arrivera sur le sud-ouest. Sur les autres régions, vous passerez un après-midi plutôt estival car l'été météorologique commence aujourd'hui et apporte une forte chaleur dans le sud-ouest qui va remonter sur le nord du pays les jours prochains. Ce sera également contrasté entre les 16 à Saint-Brieuc et les 34 attendus à Albi, 19 à Rouen mais 27 à Lyon, pas plus de 19 à Quimper et à Lille mais 27 à Aurillac. Vous aurez 25 au Lieu-d'Angers, 28 dans le Cantal à La Roque-Brou et 29 à Marseille.
Merci Marie-Pierre. France Inter, 8h10.